Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 dopsons.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
L'histoire du jour se passe dans un laboratoire scientifique où donc un savant étudie donc la puce. Il met donc une puce dans une de ses mains et demande à la puce de sauter pour voir si elle saute. Elle saute effectivement dans l'autre main. Donc il note sur son carnet, quand je demande à la puce de sauter, elle saute. Il lui coupe une patte et donc refait donc la même démarche, demande donc à la puce de sauter et elle saute. Donc il marque dans son carnet, si je coupe une patte à une puce, je lui demande de sauter, elle saute. Il fait la même chose pour la deuxième patte, pour la troisième patte, il en tire toujours la même conclusion que la puce saute. Et arrivé donc à la dernière patte, il coupe donc la dernière patte de la puce et lui demande de sauter. Et là, la puce ne saute pas. Donc il en tire la conclusion suivante. Quand on coupe quatre pattes à une puce, elle devient sourde.
Nous venons de l'entendre dans le générique. Ozone est une heure de liberté. Nous allons utiliser cette heure pour parler esclavage. Chaîne, privation, violence, outils animés, exploitation, soumission, droits de l'homme, fouet, exploitation des enfants, travail forcé, maltraitance, malheur, l'île de Gorée. Cet enchaînement de mots nous évoque le thème de l'esclavage aboli en France depuis 1848. L'esclavage qui est défini comme la condition d'un individu privé de sa liberté, qui devient la propriété exploitable et négociable comme un bien matériel d'une autre personne. Mais qu'en est-il de la situation de l'esclavage dans le monde, en Europe, en France, en Haute-Normandie, dans l'Eure et à Évreux ? Pour faire le point, nous recevons Hélène Henry de la Ligue des droits de l'homme. Pour vous servir aujourd'hui, chers maîtres, Catherine, Frédéric, Damercol, Didier, François, Séméré, Jean, Daniel, Catherine II, Sandrine, Claire, Béatrice, Vivien, Timothée et JC avec son fouet.
Au sommaire, aujourd'hui, nous retrouverons des textes sortis des points de mots. Un épisode du Narvalo, la petite cuisine, à suivre la chronique du Pôle, puis les micro-trottoirs, et en fin d'émission, l'interview d'Hélène Henry sur la Ligue des droits de l'homme.
La ville qui m'a accueilli, la ville que j'ai découverte, où j'ai appris tant de choses, où tant de monde m'ont tendu la main. À l'entrée de cette ville est bienvenue dans l'heure, avec un panneau Évreux Normandie, avec une cathédrale ancienne, suis émerveillée par ta beauté. La mairie en plein milieu de la ville, avec une grande fontaine entourée de restos et de cafettes. Je t'aime comme si je te connaissais auparavant, je dirais même comme si j'y suis née. Car je ne me sens pas étrangère dans cette belle ville où j'ai connu des grandes surfaces, des monuments, des rues. Une ville où le passage piéton est respecté. Évreux la belle, si petite et si grande à mes yeux. Suis tombée amoureuse de toi, même entourée par d'autres grandes villes. Tu es mon coup de foudre.
We'll be right back.
Vous venez d'entendre Ibrahim Malouf. Le morceau s'appelle Imprécis.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. De nombreuses associations veillent au quotidien à l'application de cette déclaration. Nous recevons l'une d'entre elles, la Ligue des droits de l'homme, en la personne d'Hélène Henry. Cette ligue est créée en 1898 à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, elle travaille à la construction du dialogue en Europe, notamment avec la Ligue allemande et la Ligue belge. Dans les années 30, elle est la pointe de la dénonciation du fascisme et du nazisme. Après la guerre, elle sera de nombreux combats comme la lutte pour l'avortement, l'abolition de la peine de mort ou de la loi sécurité et liberté. Nous avons pensé que la Ligue des droits de l'homme pourrait éclairer notre lanterne quant à l'esclavage. Bonjour.
Alors,
nous allons commencer par une première question. Y a-t-il encore de l'esclavage dans le monde officiellement et officieusement ?
Voilà, il y a de l'esclavage malheureusement. Officiellement, non, puisque c'est interdit, mais officiellement, non, mais officieusement, il y en a de plus en plus. Voilà. Donc, bon, je peux développer malheureusement cela. C'est lié d'abord à la pauvreté dans de nombreux pays. Les familles ont des dettes, n'ont pas de moyens et leurs enfants sont vendus. Elles vendent leurs enfants. Alors ces enfants font croire aux familles qu'ils vont être éduqués, mais évidemment ce n'est pas le cas. Ils sont exploités, ils travaillent, ils n'ont pas de liberté, aucune liberté. Ce sont des esclaves que l'on a vendus. Et ce que l'on peut dire, c'est que ces enfants sont vendus pour un prix plus bas que celui d'une vache. Et il y a des associations qui arrivent à les racheter, mais malheureusement, elles ne peuvent pas toutes les atteindre. Et lorsque des personnes sont enfants d'esclaves, les enfants eux-mêmes sont esclaves de naissance. Lorsque ces esclaves cherchent à s'enfuir, eh bien, on tire sur eux. Et j'ai une photo là d'une jeune femme qui a pu être rachetée par une association et qui a des blessures de balles sur les bras. Donc c'est un phénomène très grave. La police dans la plupart de ces pays est au courant, mais ferme les yeux parce qu'il y a beaucoup de corruption. Voilà ce que je voulais dire en général, malheureusement.
L'esclavage officiel est-il aboli partout dans le monde ?
Alors, donc, officiellement, il y a eu, en 1919, le pacte de la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, qui a condamné la traite en prescrivant l'abolition du travail servile. En 1926, il y a eu la Convention de Genève sur l'esclavage, qui ratifie les mesures du pacte de la Société des Nations. Donc là, cela devient officiellement interdit. Et puis, comme l'a dit la jeune fille, la Déclaration universelle des droits de l'homme le condamne fortement. C'est tout à fait interdit dans les textes, universellement.
La journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage n'est-elle pas uniquement une action politiquement correcte qui masque une autre réalité, travail forcé, travail des enfants ?
Bon, alors je dirais que ce n'est pas tout à fait politiquement correct parce que ça peut rappeler dans les esprits que l'esclavage est interdit. Et parfois, à ce moment-là, il y a des réactions et certaines mafias, je dirais, qui reculent un petit peu. Donc, je ne dis pas que c'est politiquement correct, évidemment, mais ça joue quand même un rôle pour éliminer un petit peu cet esclavage dont je viens de parler. Voilà.
Et comment l'observe-t-on en France?
Bon, alors en France, bien, on le sait par... vous demandez pour ce qui se passe en France ou pour ce qui se passe dans le monde?
Et en France.
Voilà. Alors, en France, bien, c'est évidemment très caché, mais comme certaines personnes arrivent à en sortir et que parfois la police aussi découvre cet esclavage clandestin, on le connaît, on le voit. Bon, personnellement, ben, je peux dire que j'ai déjà... à l'accueil d'étrangers, vu des jeunes femmes qui avaient été emmenées en France par des patrons qui leur faisaient croire qu'elles allaient travailler en France et en fait sont devenues des bonnes à tout faire, auxquelles on enlevait les passeports, qui travaillaient d'une manière scandaleuse, dans des conditions terribles, souvent violées par le chef de famille. Alors, de temps en temps, on arrive à les découvrir. Cette jeune fille avait réussi à s'enfuir, mais elle était extrêmement traumatisée. Et je sais par les informations de temps en temps qu'on voit de ces procès de familles qui exploitaient de manière scandaleuse ces jeunes filles, voilà. Et qui étaient souvent venues en France vers l'âge de 13-14 ans. Voilà.
Ces comportements ne sont-ils pas relatifs à un contexte culturel qu'on observerait avec notre regard d'Européens?
Alors là, je dis pas du tout, parce que les droits de l'homme sont universels. Bon, chaque pays, chaque région a ses coutumes, mais la lutte contre l'esclavage, c'est universel. Il n'y a pas des droits de l'homme réservés à certains peuples et pas à d'autres. Ceux qui prétendent cela, ce sont des prétextes parce qu'ils ne les respectent pas. C'est universel. Voilà, ça... C'est sûr.
Et très correctement, comment à notre niveau peut-on lutter contre l'esclavage dans le monde et en France?
Alors là, c'est une question très difficile, mais je veux dire, c'est en témoignant, comme on le fait en ce moment. Parce que si on montre qu'on est complètement contre, les mafias peuvent reculer un petit peu, se méfient d'autant plus. Et justement, quand une personne arrive à sortir de ces contextes-là, elle témoigne, et c'est, je pense, le meilleur moyen de lutter contre. C'est de porter plainte. Dès qu'on voit un cas, on porte plainte en justice, et ça peut porter quand même ses fruits. Mais bon, les associations ne sont pas très puissantes, mais sont parties civiles dans les jugements. Donc là, par exemple, j'ai vu dernièrement un étranger qui travaillait et qui n'avait pas du tout été payé. Donc là, on fait enquête. Voilà. On prévient la CGT, et on prévient le monde du travail. Mais c'est très, très difficile. Voilà.
D'accord. L'esclavage, c'est une privation de liberté et de travail. Qu'en est-il des personnes incarcérées qui travaillent en prison pour un faible salaire?
Bon, alors là, c'est une autre question. Bon, on ne peut pas parler de, je pense, d'esclavage quand même dans ces cas-là. Bon, je dirais que ça dépend un petit peu des contextes des prisons. En principe, les prisonniers ont droit au respect et à la dignité. C'est pour ça que je dis en principe, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de bavures. Mais normalement, ils ont quand même en prison une certaine dignité. Enfin, je peux vous dire, c'est que la Ligue des droits de l'homme est contre l'emprisonnement systématique dès la moindre délinquance. Mais là, c'est tout un autre domaine qu'on pourrait exploiter également. C'est pas la prison qui règle les problèmes sociaux de délinquance. Voilà. À part bon, les très grands criminels dangereux.
Et l'exploitation et l'esclavage, quelle différence? Quelle frontière?
Bon, alors, c'est toujours très difficile de voir la frontière. Hein. Bon, quelqu'un qui est exploité, ça peut être un esclave. Là, je dirais que c'est très difficile de faire une frontière. Quand quelqu'un se fait exploiter, ça peut être à la limite l'esclavage. Ça, je ne pourrais pas vous répondre exactement. Je pense qu'il n'y a pas de frontière. Voilà.
Nous allons maintenant entendre un micro-trottoir sur l'esclavage.
C'est quoi pour vous l'esclavage?
Mais il y a déjà la déportation en premier. L'esclavage, il n'y a pas eu qu'en Afrique, il y a eu dans les pays asiatiques, il y a eu dans les pays yougoslaves, il y a eu pas mal de pays où les populations ont été déplacées. Mm-hmm. Pour la culture, pour le travail, pour avoir la main-d'œuvre à bon marché, des trucs comme ça. Il y a l'esclavage aussi quand on fait travailler les gens à bas prix. Et les patrons y tirent un maximum.
Qu'est-ce qu'évoque pour vous l'esclavage moderne?
Par exemple, quand on emploie une femme de ménage qui dort chez son patron, les femmes nourries logées, les jeunes filles au pair ou les femmes qui vont travailler chez les patrons qui sont très très mal payées. Et moi j'appelle ça l'esclavage moderne parce que c'est déclaré. On dit pas que c'est une esclave, mais en fin de compte c'est la bonne à tout faire quoi. Mm-hmm. Et elle a un petit salaire minime qui la permet à peine de se nourrir quoi, de se loger.
Quelles sont les manières de lutter contre ces nouvelles formes d'esclavage?
Plus d'argent, que l'État nous donne peut-être plus d'argent, plus d'aide. Mmh. Parce que les gens maintenant sont prêts à faire n'importe quoi pour pouvoir avoir de l'argent, même à faire de l'esclavage ou n'importe, ils sont prêts à, ne serait-ce que pour essayer de venir en France sans papier, se cacher, là ils vont faire des ménages, garder les enfants, faire. Enfin, j'ai vu comme exemple à la télé les Indonésiens, beaucoup les Chinois, mmh, qui viennent beaucoup faire ça, qui viennent se cacher et font les nounous et sous-payés. Et puis
peut-on dire que le travail est une forme d'esclavage?
Oui et non.
Oui, parce qu'on est obligé de se lever tous les matins pour aller travailler, pour gagner de l'argent pour la fin du mois. Mais sinon, oui, c'est une forme d'esclavage. Mm-hmm. On nous oblige à faire quelque chose des fois qu'on n'est pas d'accord de faire.
Y a-t-il une spécificité du travail, de l'esclavage des enfants?
Spécificité du travail, je ne sais pas trop ce que vous voulez dire par là. Bon, l'esclavage des enfants, ben, j'en ai déjà parlé et je le dis, c'est scandaleux. Hein. Et malheureusement, il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les adultes. Il n'y a pas de spécificité. Les enfants se font exploiter dans des métiers très durs. Je veux le dire aussi, c'est que dans ce fameux esclavage, ils travaillent dans des conditions scandaleuses, des métiers très durs, dans les carrières, dans les briqueries, dans l'agriculture, et puis en tant que domestiques. C'est très très nocif pour leur santé. Et en général, ces enfants esclaves meurent très jeunes. Voilà ce que je voulais dire.
À propos du micro-trottoir, quelles sont vos réactions?
Bien, je trouve que les gens ont pas mal répondu, parce qu'effectivement, il y a eu la traite des esclaves il y a très longtemps, et aujourd'hui, bien, l'esclavage perdure et se renforce, comme disaient certaines personnes. Les étrangers sont exploités quand ils arrivent en Europe, dont la France, parfois en étant, justement, comme disait, des domestiques à tout faire, et puis dans des ateliers de confection clandestins, où ils travaillent dans de très mauvaises conditions, parfois même sans être payés du tout, parce qu'ils sont logés dans des chambres innommables. Et ça, oui, c'est scandaleux. Voilà. Oui.
Et quelle est la place des parents dans cet esclavage?
Alors, bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, en général, les parents vendent leurs enfants parce qu'ils sont très pauvres, n'arrivent pas à les nourrir. Et d'autre part, parce qu'ils ont une dette à rembourser. C'est donc pour payer la dette qu'ils vendent leurs enfants.
Quelle est la place de la femme dans le monde? Quel esclavage et sous quelle forme? Par exemple, le mariage forcé.
Voilà, alors si là on aborde le thème de la femme, là je vais vous dire, on en a pour aussi très très longtemps. Malheureusement, bon, que la femme n'est pas à l'égalité de l'homme, quoique les lois le disent dans la plupart des pays, pas dans tous. Et effectivement, il y a des mariages forcés. Alors là aussi, ça dépend des conditions. Je peux vous dire que certaines familles très pauvres marient leur enfant vers l'âge de 8-9 ans. Parce qu'ils ne peuvent pas les nourrir et qu'ils espèrent qu'ainsi, s'il y a un mari gentil, il pourra subvenir aux besoins de l'enfant. Donc, chaque cas est particulier. Je veux surtout dire que ça n'a rien à voir avec une religion, c'est lié à des traditions, hein, aussi bien chrétiennes que musulmanes ou bouddhistes. Hein. Et qu'il y a des cas dramatiques, hein, de petites jeunes filles qui meurent en couche. Il y a énormément de mortalité vers l'âge de 12-13 ans lorsqu'elles veulent enfanter. Donc, il y a quelque chose de terrible dans le mariage forcé. Ce que je peux dire, c'est qu'en France, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont mariées de force. Moi, personnellement, en tant qu'enseignante, je peux dire que j'avais une petite jeune fille de 14 ans, en quatrième, qui me dit « Madame, qu'est-ce que je dois faire ? On veut me marier avec un monsieur de 40 ans, que je ne connais pas. » Alors, bien, l'enfant a le droit de refuser, seulement, parce que c'est interdit en France, seulement l'enfant, il aime sa famille, il n'a pas envie de s'opposer à sa famille. Donc, pour l'enfant, c'est un dilemme, c'est très difficile. Et je peux vous dire que, en tant qu'enseignante, donc, j'ai vu de ces cas d'enfants aussi, bon, en général, vers la quatrième, troisième de collège, hein, qui partent en vacances et qui ne reviennent pas. Et on apprend qu'elles ont été mariées en revenant dans leur pays d'origine. On pense qu'en France, il y a environ 70 000 jeunes femmes mariées de force contre leur volonté. Voilà.
Les femmes sont-elles plus touchées que les hommes par l'esclavage ?
Je dirais non, je pense que... Enfin, sur le plan, comme je viens de dire, inégalité entre femmes et hommes, mariage forcé, c'est sûr... Mais dans les mariages forcés, il y a également des petits jeunes gens, des petits garçons. Donc, il y a aussi beaucoup d'esclavage chez les garçons. Et sur les images que j'ai d'enfants esclaves, je peux dire que c'est bien mixte. Il y a autant de filles que de garçons, malheureusement, pour les uns et pour les autres.
Oui, bonjour. Je voulais aussi vous poser une question pour élargir un petit peu le débat. C'est une question. Est-ce que vous pensez que ce qu'on a coutume d'appeler la délocalisation, hein, les entreprises qui vont faire travailler d'autres personnes dans les pays pauvres, serait une forme d'esclavage moderne ?
Alors, ça dépend aussi des conditions. Les personnes qui travaillent dans de très mauvaises conditions sociales, le dumping social, c'est un scandale parce que ça fait travailler des personnes d'une manière antisociale. Alors, au lieu d'essayer d'améliorer les conditions sociales de travail dans certains pays où il y a beaucoup de misère, c'est le contraire qui se passe. On veut faire le rabaissement par le bas, hein, et non pas par le haut. Alors, dire aussi que c'est de l'esclavage, c'est difficile. C'est une certaine forme d'esclavage. Mais je dirais surtout que c'est de l'antisocial. Hein, parce que je crains fort que dans notre société, où il y avait quand même des progrès sociaux, en ce moment, c'est en chute libre. Et c'est plutôt en imitant ce qui se passait mal ailleurs. Donc c'est un scandale. Et je crains que ce soit la limite du travail forcé. Et le travail forcé, pour moi, c'est une forme d'esclavage.
Oppression par le travail, peur du chômage, la situation empire-t-elle avec les conditions économiques, la dégradation des conditions de travail, la menace de chômage ou... délocalisation.
Ben, c'est ce qu'on vient d'aborder justement. Je viens de dire que bon, le mot esclavage, ça dépend si on le traite d'une manière très étroite ou plus large, mais je pense qu'en ce moment, la dégringolade des droits sociaux est extrêmement inquiétante. Voilà. Et je crains que sur cette voie, on sombre dans le noir. Voilà. Pessimiste.
Et pour terminer, quelles sont les actions de la Ligue des droits de l'homme pour intervenir dans le monde et en France ?
Voilà, alors sur le plan national, je dirais qu'il y a la FIDH qui a été créée par la Ligue des droits de l'homme, c'est-à-dire la Fédération internationale des droits de l'homme, qui agit dans le monde. Et la Ligue, c'est plutôt pour la France. Alors, la Ligue est pluraliste. Elle l'observe, elle essaye de voir si les droits de l'homme sont respectés. autant les droits civiques, civils, de culture, que les droits sociaux. C'est pour ça que là, je parle du social. Alors, elle témoigne et elle essaye d'informer la population sur ce qui se passe. Parce que dans la mesure où on informe, il peut y avoir réaction. Voilà. Donc, la Ligue, sur le plan national, intervient même auprès du gouvernement. Et c'est bien pour ça qu'à un certain moment, M. Sarkozy le traitait des droits de l'hommisme, parce que les droits de l'homme intervenaient un petit peu trop souvent à ses côtés. Donc, sur le plan national, je dirais, les grandes têtes de la Ligue des droits de l'homme ont un rôle important. Mais c'est surtout le témoignage. Par exemple, moi, je vais régulièrement dans les écoles pour parler de la lutte contre les discriminations. Et on essaye d'intervenir. Il y a beaucoup de ligueurs qui aident les étrangers dans leur démarche, comme c'est mon cas avec le CFED actuellement. C'est surtout un rôle de témoignage pour que les personnes réagissent et deviennent citoyennes, c'est-à-dire ne laissent pas faire les choses et qu'elles réagissent. Voilà, parce que là, en ce moment, les conditions ne sont pas bonnes, mais il y a beaucoup de personnes qui baissent les bras, qui disent « on ne peut rien faire ». Et là, on essaye de dire au contraire « mais il faut réagir, il faut faire quelque chose, ne vous laissez pas faire ». Un citoyen doit participer et doit discuter avec d'autres pour faire respecter les droits de l'homme, en particulier lutter contre les discriminations, lutter pour que tous aient accès aux droits fondamentaux et culturel, voilà. Et c'est ce que je fais un petit peu là en ce moment. Mais malheureusement, je vais dire, sur le plan national, on est à peu près 9000, ce qui n'est pas beaucoup. Sur le plan local à Évreux, on est très peu nombreux. Il y a des actions qu'on voudrait vraiment mener et qu'on ne peut pas parce qu'on n'est pas assez nombreux. Mais je peux vous dire que là, on est en train de mettre en place une action avec marche, avec distribution de textes sur la lutte contre la montée du racisme et de la xénophobie qui est extrêmement inquiétante actuellement. Indépendamment de tout parti politique, il y a une montée de la xénophobie, une montée du racisme. Et là, sur le plan local, on va vraiment s'investir avec d'autres associations, parce qu'en collectif, c'est mieux que tout seul. Voilà, comme je dis, il faut réagir, il faut se rassembler. Voilà.
Nous tenons à vous remercier d'être intervenu sur notre radio. Nous allons entendre un morceau de Serge Gainsbourg.
Chapeau de paille, je siffle un jus de papaye avec paille.
Et c'est Seigneur le Boy.
Sous le soleil du rail, le souvenir m'assaille. Aïe aïe aïe, il y a des couillonnes qui parle d'extradition, mais pour moi pas question de payer l'addition.
Et c'est Seigneur le Boy.
Je n'étais qu'un homme de paille, mais je crains des représailles que j'aille.
Et c'est Seigneur le Boy.
Sous un chapeau de paille, je siffle un jus de papaye avec paille.
Et c'est Seigneur le Boy.
J'ai gardé de mes batailles croix gammée et médaille en émail. Et toujours ces couillons qui parle d'extradition, mais pour moi pas question de payer l'addition.
Et c'est Seigneur le Boy.
J'ai ici de la canaille qui m'obéit au doigt et à l'œil.
venons d'entendre SS in Uruguay de Serge Gainsbourg.
Et maintenant, on vous propose un petit voyage aux couches d'ozone, une radio locale, pour aller déguster une crépinette d'ozone, ozone, radio ozone.
Donc, bonjour, je m'appelle Frédéric. Nous allons préparer la pâte à crêpes au sucre. Les crépinettes, pardon.
Alors, pour bien être au courant, on va vous épeler rapidement les ingrédients, mais on vous les rappellera à la fin. Les ingrédients, 4 œufs. Il vaut mieux dire des œufs que des œufs, ça fait mieux. 50 centilitres de farine, 50 centilitres de lait, 50 centilitres de sucre, un sachet de sucre vanillé. Alors, première opération. Préparez les ingrédients dont je viens de vous parler. Mettez la farine dans un saladier, forez un puits à l'aide d'une cuillère en bois. Celle-ci peut être de buis, de hêtre, mais surtout, elle doit être en charme. Sinon, les crêpes seront ratées. Alors, je vais laisser un peu parler mon collègue.
En ce moment, je suis en train de mesurer les 50 centilitres de farine. Et nous allons mettre dans le saladier. Voilà que je renverse dans le saladier maintenant. Voilà. Ensuite, nous allons casser les 4 œufs dans la farine. Sans oublier de faire un trou au milieu pour éviter que ça fasse des grumeaux aussitôt.
Pas de coquille, hein, on n'est pas à l'écriture.
Maintenant, on mélange les œufs et la farine.
Alors maintenant, on va passer à l'opération de verser délicatement, lentement, affiler continu le lait à température ambiante.
Attends, j'ai renversé les 50 centilitres de lait dans le pot. Puis le remettre avec le mélange de farine et des œufs.
Continue. Voilà, il était en train de se faire les muscles, là. Voilà. Et là, c'est là que l'on dit qu'on met la main à la pâte. Faut savoir que cette recette peut être faite seule, mais généralement, les crêpes, c'est familial et convivial.
Maintenant, nous allons, une fois qu'on a fait le mélange des œufs et farine et du lait, pour que ça soit meilleur, on va rajouter du sucre.
Et on peut constater qu'il n'y a pas de grumeaux.
Alors pour que la recette soit encore meilleur goût, on va rajouter du sucre vanillé.
Ah, les choses importantes. Il faut avoir pensé à faire préchauffer l'engin pour préparer les crêpes. Sinon, on va patienter bêtement.
Maintenant qu'on a tout mis, la farine, œufs et sucre vanillé, on va laisser reposer un petit peu pour éviter que ça fasse plus de grumeaux. Alors voilà, maintenant on a laissé la pâte se reposer pendant quelques minutes. Maintenant on va faire cuire les premières crêpes.
Et la dextérité arrive toujours en recommençant l'opération de mieux en mieux. Avant de dire bon appétit, n'oubliez jamais que tout le monde est invité à goûter les crêpes. Et surtout, ce sont des crêpes et crêpinettes au sucre, aux zones libres. Et bon appétit, bien sûr.
Ma mère, femme de couleur, pleine d'amour et de patience. À toi, ma mère, je pense à toi quand j'écris ce poème d'enfance. Je pense encore aux souvenirs d'enfance quand tu me portais sur ton dos. Tu me guidais à mes premiers pas. En mémoire de toi, j'écris ceci. Pourtant de sacrifices et de privations endurés à mon égard. L'oiseau s'envole, mais il laisse toujours sa plume. Tu restes toujours gravé dans mon cœur. Comme on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Raison pour laquelle j'écris ce poème. Vive la liberté, et voilà, je suis libre de mener ma vie seul sans toi. Et voilà, tu es devenu poussière, tu es rentré aux terres de nos ancêtres. Moi, ton fruit, je te dédie ce poème à ta mémoire. C'était un texte de Claudine. Et maintenant, nous allons entendre les gazouilles des gens.
Bonjour, c'est le confiseur. Je cherche une bobonne. Pourquoi vous voulez une bobonne? Ben pour mettre mes bonbons. Mais une bonbonne, c'est pas fait pour mettre des bonbons. Ah, mais j'ai mieux qu'une bonbonne. Venez voir, j'ai un tonneau avec une cannelle. Mais attention, hein, un vin chaud avec une cannelle, c'est excellent. Mais vous finissez sous une barrique. Un jour, cherchant une bobonne, non pour voir si bonne, mais pour trouver une bonne à tout faire, j'ai rencontré une slovone. Mais c'est quoi ça? Ben j'ai pas dit une ex-slovone. Ah, vous pourriez être ex-slovone. Ça veut dire que vous seriez naturalisé de quelque pays que vous soyez. C'est pas grave. Mais si vous êtes slovone, il y a bien un slovon chez vous. Un slovon. C'est un ancien habitant de la Slovonie. C'est pour ça qu'on dit il vaut mieux être slovon que slovone.
Les aventures du narwalo, c'est dans Ozone Libre.
Il était une fois, 9 mois ferme plus tard, en banlieue de New Karachnouchka, capitale de la République démocratique et populaire d'Ozonie. Le grand jour est arrivé, la révolution. Non, la naissance de l'héritière Mulfitas, fille des désormais célèbres Robert Iramba Lambert. Il est de coutume dans les baptêmes en Ozonie pour célébrer l'arrivée du nouveau-né que ce soit les anciens guerriers du village qui choisissent le prénom de l'enfant. Tous les ninjas de New Karachuruka se sont réunis en ce jour ô combien historique. Le narwalo conduit la cérémonie.
Au nom du sacro-saint Yorkshire à plumes, qui règne sur la terre comme au ciel, nous te souhaitons la bienvenue. Le conseil des ninjas sages s'est réuni et à l'unanimité, ils ont nommé ce nouvel enfant. Nous souhaitons donc la bienvenue donc à la petite Ramberta Mulfitas Lambert.
Une fois la cérémonie terminée, toute l'assemblée se donne rendez-vous dans le palais du général Moulfritas.
Aujourd'hui est un grand jour. Ma fille Romba et son mari nous donnent une nouvelle héritière. Romberta régnera après sa mère et sera à coup sûr une dirigeante sans faille. Venez festoyer dans ma demeure, servez-vous, profitez. Aujourd'hui, ma joie est immense et je vous offre tout ce dont vous rêvez. Buffet à volonté.
Tout le monde s'est retrouvé dans la salle de réception du gigantesque palais du général Moulfritas pour y boire, manger et danser jusqu'au bout de la nuit. La soirée se déroule sans fausse note jusqu'à tard. Mais peu avant les premières lueurs de l'aube, un homme se faufile dans la nuit. Quelqu'un s'introduit dans la chambre de la petite Romberta Moulfritas Lambert. L'individu porte un accoutrement tout à fait caractéristique, une combinaison noire et une cagoule. Tout aussi noir, un ninja vient de commettre l'irréparable. Crime de lèse-majesté, scandale, trahison. Le ninja a enlevé le nouveau-né. L'héritière de la République démocratique et populaire d'Ozoni. Quelle étrange tradition que cette cérémonie au cours de laquelle les sages ninjas attribuent les noms du nouveau-né. Mais qui est ce mystérieux ninja en combinaison et en cagoule noire? À quel obscur dessein sert-il? Pour le savoir, rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du Narvalo.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
D'écouter Tricky Delvide. À suivre, micro-trottoir sur l'esclavage.
C'est quoi pour vous l'esclavage?
L'esclavage, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la misère.
Pour moi, c'était à l'époque, c'était les Noirs qui étaient sous esclavage, c'est tout.
Bah, c'est la pire des choses pour moi. C'est, tout ce qu'elle a fait, tout, c'est vraiment la décadence de l'homme. Oui. Comme ça. Hein. Ouais.
Crûment, c'est l'esclavage. C'est. Bah, pour moi, je vois l'image voilà, du noir qui se fait. C'est on se sert des malheureux quoi. On est,
L'esclavage, c'est qu'il prend des gens pour des chiens. Mm-hmm. Tout simplement. Ça je refuse ces choses-là.
D'accord. C'est les gens les plus riches qui servent des plus pauvres pour pouvoir faire leur ménage, faire à manger, faire tout ce qu'il faut. Mm-hmm. Ni plus ni moins.
Qu'est-ce qu'évoque pour vous l'esclavage moderne ?
La consommation n'est pas esclavagiste de nature, mais elle entraîne une situation de dépendance qui n'est pas loin de ce qu'on peut appeler l'esclavage.
Il est aberrant, il devrait être interdit. Il y a des gens qui souffrent de ça, qui souffrent beaucoup de l'esclavage caché, que l'État ne les aide pas. Ils essayent, ils font semblant, mais ils n'aident pas les gens. Ils les enfoncent plus qu'autre chose.
Faire travailler des gens dans des endroits pas très sains.
Ah, tout dépend, si une loi sort et que ça nous plaît pas, on est obligé de la suivre, c'est de l'esclavage, hein. On se fie, c'est tout.
Qu'on contrave, c'est un peu le rapport. Là. Quand on travaille et puis qu'on n'est pas zéro, on est payé vraiment. On est exploité.
Il faudrait le savoir, comme les gens qui font venir des petites jeunes de certains pays d'Afrique ou du Maghreb. Ils les gardent à la maison, ils les font travailler, les jeunes filles font tour à la maison, s'occupent des enfants, la nourriture et tout. On ne sait pas que ces jeunes filles-là sont là. Déjà, elles n'ont pas de papier. Donc, c'est aussi les garder en esclavage, mais sans pour autant faire savoir qu'elles sont... Jusqu'au jour où elles s'enfuient, mais bon, des fois, ça dure 2 ans, 3 ans, on ne sait pas, quoi.
Quelles sont les manières de lutter contre ces nouvelles formes d'esclavage ?
Elles sont de plusieurs ordres, hein. Elles sont tout à la fois collectives et individuelles. Collectives, eh bien, les réseaux d'information, qu'il s'agisse d'informer les consommateurs, de les tenir au courant, de les faire agir, ou collective, je pense politique ou syndicale. Mais la prise de conscience individuelle est quand même essentielle.
Mmh. Et comment elle peut être permise, cette prise de conscience individuelle ?
Permise ? Par la réflexion continuelle. Donc c'est un double mouvement à la fois de ce que l'on reçoit de l'information, mais je ne parle de l'information dirigée et consciente, et de l'assimilation de cette information.
Après, c'est à nous de dire les choses aussi, mais bon, si on veut garder sa place...
Une manière de lutter contre ces formes-là, alors ça peut être quoi ?
C'est délicat, hein, quand on ne veut pas perdre sa place, quand on a la sécurité de l'emploi... Après, pour dire les choses concrètement, ça me plaît pas, les horaires comme ça, qui changent tout le temps, jamais le même jour de repos, j'en peux plus, qu'est-ce qu'elle va me dire ? Tu changes d'entreprise.
Faut se battre ?
Faut se battre comment ?
On fasse en grève. Il y aura d'ailleurs du mystère.
Peut-on dire que le travail est une forme d'esclavage ?
Le travail aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui ? C'est une sorte d'esclavage, hein. Parce qu'il n'y a plus vraiment, vu que c'est la crise, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien.
Non, je ne dirais pas ça, parce qu'il y a des gens qui font des études pour justement pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir travailler. Après, non, je ne pense pas que ça soit de l'esclavage. Une obligation peut-être à l'heure d'aujourd'hui, ouais. Si c'est même sûr. Sinon, c'est pas de travail, on ne vit pas.
Sous quelle forme ? C'est d'accepter n'importe quel travail, déjà.
Ouais. Métier pénible, ça, les métiers, ils sont pas payés. Les maçons, rien compte, ils travaillent l'hiver. Ils sont obligés comment ? Et puis les gens qui font les routes, tout ça, les travaux publics, tout ça, c'est un genre d'esclavage. Hein. Pour le travail qu'ils font, ils sont pas payés, les gars. Enfin, pour moi. Hein.
L'abus au niveau des changements d'horaire, tout le temps, quoi. Tous les jours, il y a des changements d'horaire et on n'a pas le choix, il faut qu'on se plie. Les salaires, nous, on n'a pas de primes, on n'a rien. Des petites primes vraiment ridicules, mais sinon, on est des pions, hein.
Il y a des cas quand même où l'esclavage existe dans le travail.
Vous pensez à quoi, madame ?
Des cadences dans les entreprises.
Pour moi, le travail, c'est la santé. Si je travaille pas, je tombe folle, là. Ça va plus, là. Non, le travail, c'est pas de l'esclavage du tout. Il y a des gens qui font travailler d'autres personnes à bas prix. On dit, j'ai un travail d'esclave. C'est une image. Mais le travail ne peut pas être même considéré comme de l'esclavage. On a besoin de travailler pour vivre.
D'accord.
Voilà. Sans quoi on n'a pas d'argent, on ne vit plus, quoi. On ne peut pas se loger.
C'était la deuxième et dernière partie de notre micro-trottoir sur l'esclavage. Maintenant, nous allons retrouver avec beaucoup de plaisir la cascade de mots sans filet de Jean de la Lune et en direct.
Oui. L'aération de la narration dicta le conduit de la aide, orateur de l'espace aéré. Le yodeleur à l'iode vitupère les vocalises aérodiques aux charges ioniennes sous un ciel iodiaque vénitien.
Maître Vanessa, assise sur une chaise, tenait dans sa main un stylo. Maître Béatrice, gomme-crayon à la main, lui dit quelques mots. « Bonjour Vanessa, que vos textes sont beaux, qu'ils me semblent bien. Sans mentir ni regret, c'est votre style. Tous vos textes sont comme ça. » Maître Vanessa ne le croyait pas, mais essayait d'y croire. Elle ouvra la bouche, la referma. Béatrice se mit à dire « Vanessa, apprenez à les aimer. » Mais cela ne dépend que de vous. Cette leçon vaut bien une réflexion. Et après réflexion, et un peu plus tard, Vanessa commença à apprendre à les apprécier. C'était un texte de Vanessa de l'atelier du Point Nemo.
Sonrisa con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Es juego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo. Me entrego a tus brazos con miedo y con calma, un ruego en la boca. Sonrisa con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego.
Nous venons d'entendre Laza qui a interprété Con todo palabra. Nous allons maintenant écouter la minute du pôle.
Être obligé de travailler, se faire tuer, chaîne attachée serrée, les pleurs commençant séparés, alors oser en parler, vivre en étant maltraité et ne pas avoir à manger, servitude, à quoi ça sert de travailler, l'esclavage. Je me fais fouetter, je pleure et crie, moi je suis enchaîné, maltraité pour toujours, pendant que d'autres sont heureux dans leur maison, reçoivent beaucoup de cadeaux, pendant que je reçois des coups de fouet, je survivrai ou bien mourrai. J'ai survécu grâce à un héros qui est apparu devant nous. Ce héros s'appelait Victor Schœlcher. Il nous a tous sauvés. Schœlcher m'a emmené chez mes parents. Je les ai revus et je suis redevenu heureux.
Le malheur de l'esclavage. Je suis un esclave, enfermé dans une cave, fouetté qui travaille, à longueur de journée. Une bien longue histoire. J'étais en famille, lorsqu'on m'a enlevé, puis acheté au marché, on m'a exploité. J'ai appris que mon ami est décédé. J'étais triste et je pensais que moi aussi, ça allait bientôt m'arriver. Mais dans mes pensées, je préférais mourir que travailler.
L'abolition de l'esclavage. Je suis un esclave, battu, fouetté,
maltraité, enchaîné. Je dors dans une cabane que j'ai fabriquée. Je dors sur de la paille. Mon déjeuner est du pain dur, du lait. Mon travail est de fabriquer des ballons, des belles chaussures et des beaux tapis. Je suis fouettée si c'est mal fait. Le dîner du soir est la soupe et du pain dur. Et c'est dur d'être un esclave.
Je suis à la campagne. Je mène une vie bien heureuse. Mais un jour, des hommes ont débarqué. Ils m'ont emmenée chez eux. Là-bas, il y avait plein de gens, mais ils vivaient dans la tristesse. Il y avait beaucoup de personnes blessées. Elles étaient toutes maltraitées. À aucun moment, maltraitance rimera avec dimanche.
Ainsi se termine l'épisode 3 de la saison 3 d'Ozone Libre sur la radio Principe Actif. Nous vous espérons solides et solidaires après cette heure passée en notre compagnie. Les podcasts sont toujours disponibles sur le site principeactif.net. Nous remercions encore Hélène Henry d'avoir bien voulu répondre à nos questions ainsi qu'à l'équipe de Principe Actif. Nous avons une pensée pour Stéphane et Daniel, partis en Ozonie, au baptême de l'héritière Moulfritas. Peut-être vont-ils rester là-bas, peut-être vont-ils revenir, qui sait. En tout cas, nous leur souhaitons bon vent et méfiez-vous du narvalo. Prochaine émission, le vendredi 27 décembre, de 12h30 à 13h30. D'ici là, portez-vous bien.
Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 dopsons.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre.
Le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe. Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.